Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 10 octobre 2022. Avec vous, Eric Manelakiza, voici d'abord le sommaire. Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, investi président de transition, il promet un gouvernement d'union nationale dans les prochains jours. Massacre de 2009 en Guinée, avec le président Moussa Dadis Camara et une dizaine de co-accusés maintenus en prison le temps du procès. Au moins 10 personnes ont été tuées, 60 autres blessées dans les frappes massives russes sur l'Ukraine. L'Union européenne et l'OTAN dénoncent des attaques aveugles. Le prix Nobel d'économie décerné à 3 experts des banques, dont l'ex-président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le Tchad aura bientôt un gouvernement d'union nationale, annonce faite par Mahamat Idriss Déby Itno, investi président de transition ce lundi. C'est à l'issue d'un dialogue national boycotté par une partie de l'opposition et de la solidarité et de la société civile et qui a pris fin ce week-end. Abdourahmane Dia.
La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, et de plusieurs ministres d'autres pays, notamment du Niger, de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo, ainsi que des ambassadeurs de France et de l'Union européenne. Le général, âgé de 38 ans, a promis que ce gouvernement d'union nationale qu'il compte mettre en place dans les prochains jours s'emploiera corps et âme pour que la volonté du peuple tchadien ne souffre d'aucune entorse. Ce qu'il appelle la deuxième phase de la transition doit conduire, selon lui, au raffermissement de la démocratie au Tchad. Il a aussi promis des élections qui seront organisées dans la transparence et la sérénité pour permettre aux Tchadiens de mettre un terme à la transition et assurer le retour à l'ordre constitutionnel. Le dialogue national inclusif et souverain, qui s'est achevé samedi, a prolongé de 2 ans la transition vers des élections libres et démocratiques et entériné la possibilité pour M. Déby de s'y présenter 18 mois après qu'il a pris le pouvoir, suite à la mort de son père Idriss Déby au front.
L'ancien leader militaire guinéen Moussa Dadis Camara et ses co-accusés resteront en prison. Ainsi en a décidé le tribunal guinéen chargé de juger dans l'affaire du massacre du 28 septembre 2009. Michel Joseph.
Le tribunal a décidé que les débats sur le fond et l'interrogatoire des accusés pouvaient commencer. Moussa Dadis Camara et certains de ses co-accusés avaient été incarcérés à la veille de l'ouverture de leur procès à Conakry. D'autres se trouvaient déjà en prison. Les avocats de Dadis Camara ont réclamé sans succès sa libération provisoire ou son placement en résidence surveillée en invoquant son statut d'ancien chef d'État. L'équipe de défense d'un autre accusé, le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, ancien chef de la garde rapproché de Moussa Dadis Camara, ont demandé son évacuation pour des raisons de santé, ce dernier étant en prison depuis 2016. Une demande rejetée par la Cour qui estime que le prévenu n'a fourni aucune pièce médicale pour appuyer sa demande d'évacuation sanitaire. Moussa Dadis Camara et ses co-accusés comparaissent pour la violente répression des militants de l'opposition dans un stade de Conakry le 28 septembre 2009. Ces violences ont fait au moins 156 morts et au moins 109 femmes ont été violées selon un rapport de l'ONU.
Le premier procès en France de crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile au Libéria dans les années 90 s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Paris. Conti Camara, ancien commandant du groupe rebelle libérien de l'Oulimo, est accusé d'avoir perpétré lui-même ou supervisé des actes inhumains dans le nord-ouest du Nigeria entre 93 et 94, allant du travail forcé à un assassinat accompagné de cannibalisme. Il conteste les faits. La police sud-africaine a arrêté lundi un suspect de meurtre après la découverte de 6 corps, dont 5, en état de décomposition avancée dans un immeuble résidentiel du centre de Johannesburg. Des témoins présents sur les lieux ont raconté que 1 ou 2 prostituées avaient récemment disparu dans le quartier. La première ministre française Elisabeth Borne a dressé un bilan positif lundi de son voyage de 2 jours en Algérie et premier déplacement à l'étranger qui a permis, selon elle, aux deux pays d'avancer vers un partenariat renouvelé inscrit dans la durée. Madame Borne s'est réjouie de progrès dans le rapprochement bilatéral accompli en particulier lors d'une réunion dimanche du comité intergouvernemental de haut niveau, la première depuis 2017. À moins d'un mois de la COP27 qui doit se dérouler en novembre en Égypte, l'ONU et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge appellent dans un rapport conjoint à se préparer aux vagues de chaleur à venir pour éviter un nombre important de morts. Les vagues de chaleur vont devenir si fréquentes et intenses sous l'effet du réchauffement climatique que certaines régions du globe vont devenir invivables au cours des prochaines décennies, ont averti l'ONU et la Croix-Rouge.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a promis lundi des répliques sévères en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie après la destruction partielle samedi du pont de Crimée, infrastructure stratégique et symbole de l'annexion de cette péninsule ukrainienne. Cette réplique de la Russie suscite depuis des réactions à travers le monde. John Lindon.
Sur proposition du ministère de la Défense et en conformité avec le plan de l'état-major, des frappes massives avec des armes de haute précision de longue portée ont été menées contre l'infrastructure énergétique, militaire et de communication de l'Ukraine, a dit M. Poutine lors d'une réunion de son Conseil de sécurité retransmise à la télévision. Pour la première fois depuis le 26 juin, la capitale Kiev a été touchée par des bombardements et plusieurs villes étaient sans courant en fin de matinée, selon les autorités locales. Le numéro 2 du Conseil de sécurité de la Russie et ex-président Dmitry Medvedev a assuré que les frappes massives contre l'Ukraine n'étaient qu'un premier épisode, appelant au démantèlement total du pouvoir politique ukrainien. Au moins 10 personnes ont été tuées et 60 autres blessées, a annoncé la police ukrainienne. Le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a laissé entendre que ces attaques s'apparentent à des crimes de guerre dont les responsables devront rendre des comptes. Même credo pour Paris, qui ne cache pas son extrême inquiétude. L'OTAN, de son côté, condamne ce qu'elle qualifie d'attaque horrible et aveugle.
Le président américain Joe Biden a fermement condamné ces bombardements russes en Ukraine, preuve de la brutalité absolue de son homologue russe Vladimir Poutine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément choqué et a dénoncé une nouvelle escalade inacceptable de la guerre, dont les civils paient le prix le plus élevé. Par ailleurs, les dirigeants du G7 et le président ukrainien Volodymyr Zelensky tiendront demain mardi une réunion virtuelle sur la situation en Ukraine. Tous les pays des Nations Unies se réunissent depuis cet après-midi à New York en Assemblée générale pour débattre d'une condamnation de l'annexion de régions ukrainiennes par Moscou. Cette résolution devrait être votée cette semaine. Le président belarusse Alexandre Loukachenko a accusé lundi la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine de préparer des attaques terroristes et un soulèvement au Bélarus et annoncé le déploiement d'un groupement militaire régional avec Moscou. Le prix Nobel d'économie a été décerné ce lundi à Ben Bernanke, l'ancien président de la Banque centrale américaine Fed, et à ses compatriotes Douglas Diamond et Philippe Dybvig pour leurs travaux sur les crises financières et les banques. Nani Tetalani.
Le trio a significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie, particulièrement durant les crises financières, ainsi que la façon de réguler les marchés financiers, a annoncé le jury Nobel. Il ajoute qu'une importante découverte de leurs recherches a été de montrer pourquoi éviter l'effondrement des banques est vital. Leurs travaux ont commencé à partir des années 1980. Âgé de 68 ans, Ben Bernanke était le patron de la Réserve fédérale entre 2006 et 2014, une période marquée par la crise financière de 2008 et la chute de la banque américaine Lehman Brothers. Il a notamment analysé la Grande Dépression des années 1930, la pire crise économique de l'histoire moderne. Il a montré comment les retraits massifs étaient un facteur décisif dans la prolongation et l'aggravation des crises. Douglas Diamond et Philippe Devig ont quant à eux développé des modèles théoriques montrant pourquoi les banques existent et pourquoi leur rôle dans la société les rend vulnérables à la rumeur sur leur effondrement imminent.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce soir par Nanit Talani.
La réduction des averses et des éclaircies dans la plupart des régions productrices de cacao de Côte d'Ivoire la semaine dernière pourrait empêcher la propagation des maladies et améliorer les conditions de croissance pour la récolte principale d'octobre à mars, affirment ce lundi les agriculteurs. Cela facilitera le séchage des fèves, les maintiendra en bonne santé et améliorera leur qualité. Les agriculteurs s'attendent donc à des rendements abondants si le temps reste clément jusqu'à la mi-novembre. La Tunisie, déjà confrontée à des pénuries de certains produits subventionnés, n'a assez d'essence que pour quelques 10 à 14 jours, alors que ses réserves stratégiques sont habituellement de 60 jours, a alerté ce lundi le syndicat UGTT. La pénurie d'approvisionnement en carburant pourrait reprendre si l'État ne trouve pas suffisamment de liquidités pour payer les chargements à venir, ajoute l'UGTT. Le gouvernement tunisien a nié à plusieurs reprises avoir du mal à payer les importateurs de marchandises, imputant les pénuries aux spéculateurs internes. Terminons par le Zimbabwe où le président Emmerson Mnangagwa annonce que son pays obligera les entreprises d'extraction d'or, de diamants, de lithium et d'autres métaux à payer une partie de leurs redevances en métal raffiné plutôt qu'en espèces. Pour les mineurs, cette décision ne devrait avoir aucun impact financier ou opérationnel significatif sur leurs activités puisque c'est juste les modalités de paiement qui changent.
Et en transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football pour commencer avec les matchs aller du dernier tour des compétitions interclubs.
Oui, en Ligue des Champions, le Djoliba de Bamako s'est imposé face au CR Belouizdad d'Algérie sur le score de 2-1. Sekou Sek, coach du Djoliba de Bamako.
Ce qu'il faut retenir dans ce match, je pense que c'est la détermination en équipe. Ça a été phénoménal. Chercher cette victoire, et je pense que de loin, c'est une victoire qui est méritée. Le Djoliba a des arguments à évaluer et pourquoi pas faire un résultat en Algérie.
Sekou Sek, coach du Djoliba de Bamako. Pour le coach du CR Belouizdad d'Algérie, son club va arracher la qualification au match retour. Nabil El Kouki.
Devant notre public, bien sûr, on a toutes les chances de jouer notre qualification et on va, Inch'Allah, on va se qualifier. On a les qualités, on a les joueurs qui vont faire l'affaire.
Nabil El Kouki, coach du CR Belouizdad. Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Dans les autres matchs, le tenant du titre, le Wydad de Casablanca, chute au Nigeria face à Rivers United. 2-1, même scénario pour l'Espérance de Tunis, battue elle aussi au Nigeria par Plateau United. La SEC Mimosa s'incline à domicile 1-0 devant les Guinéens de Oroya. En revanche, Mamelodi Sundowns a presque validé sa qualification après son carton de 7-0 sur le terrain des Seychellois de la Passe.
C'est presque assuré aussi pour les deux clubs égyptiens.
Al Ahly et le Zamalek sont sortis tous vainqueurs sur le même score 1-0 à l'extérieur respectivement face à l'US Monastir et à Bujumbura contre Flambeau du Centre. Victoire en déplacement aussi des Marocains de Raja 2-0 au Niger face au Niguelec, des Algériens de l'AJS Kabylie 2-1 chez les Togolais de Lasco, de Kara et des Tanzaniens de Simba 3-1 en Angola face au Primeiro de Agosto. Par contre, rien n'est encore joué pour le tout-puissant Mazembe, tenu en échec 0-0 à Kampala chez les Vipers.
Cyclisme pour terminer avec l'épilogue du Grand Prix Chantal Biya.
Et c'est Axel Thaïlandier de l'équipe France Défense qui s'adjuge le maillot jaune à l'issue de la cinquième et dernière étape courue entre San Melima et Meio Messela. Une étape de 134 km remportée d'ailleurs par l'Algérien Abderrahmane Mansouri. Le Français succède ainsi au Slovaque Lucas Kubis au palmarès de l'épreuve camerounaise.
Et c'est tout pour les sports. Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manerakiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. Le général Mahamat Debi Itno restera donc à la tête d'une transition tchadienne prolongée de 2 ans supplémentaires. Il a prêté serment ce lundi et il aura aussi la possibilité de se présenter à la prochaine présidentielle. La décision du dialogue national inclusif et souverain qui s'est achevé le week-end a été diversement appréciée. Dani Aïda est le directeur résident du NDI en RDC, chargé des programmes d'Afrique centrale. Abdourahman Dia l'a joint à N'Djamena, où il a rencontré différents acteurs de la société civile et religieux.
La décision de prolonger de 2 ans, ça, là, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une période additionnelle au cours de laquelle des réformes soient menées et des élections soient organisées. Donc, à mon avis, il n'y a pas véritablement de problème à ce qu'il y ait prolongation de la période de transition. Là où il y a discussion, c'est par contre la possibilité pour les acteurs de la transition d'être candidats aux prochaines élections, ce qui est comme un retour en arrière par rapport à des engagements préalablement pris.
Ce n'est pas souvent le schéma que propose la communauté internationale. Souvent, on demande que les militaires qui dirigent une transition ne soient pas candidats.
Absolument. Ce qui est une mesure d'ailleurs très importante parce que, vous savez, la crédibilité des élections nécessite que ceux qui les organisent, ceux qui ont une certaine prépondérance, surtout en période de transition, puissent ne pas y participer. Ce qu'on a remarqué, c'est que le dialogue national inclusif a décidé de dissoudre le CMT, le Conseil militaire de transition, mais autorise du coup le président de cette commission à être président de la transition, ce qui lui confère des prérogatives assez importantes. Maintenant, s'il est encore candidat, effectivement, il aurait une longueur d'avance sur les autres challengers. Et c'est ça que certains partis politiques, certains leaders de l'opposition décrivent, que ça comme si d'office, ils pourraient être élus parce qu'ils ne sont pas sûrs que les jeux seront assez clairs.
La forme de l'État a été un des dossiers importants de ce dialogue national qui recommande qu'une nouvelle constitution soit votée par voie référendaire. Alors comment garder les militaires hors du champ politique? Est-ce que c'est une question qui a été abordée?
Oui, quand on lit la résolution du dialogue, je pense que la question du rôle de l'armée dans la gouvernance politique a été discutée. Et certains des acteurs participant au dialogue que j'ai rencontrés, y compris même des politico-militaires, disent que il est très important que l'armée actuelle soit réformée, de fond en comble, entreprendre un processus qui est relatif à la gouvernance du secteur de la sécurité qui permet de détribaliser, je cite, cette armée et de faire en sorte qu'on puisse séparer l'armée de la politique. Et si cette réforme est entreprise pendant la transition, je pense que ce sera une très très bonne chose. Et peut-être de façon indirecte, ça peut aussi régler la question de candidature du chef de la junte militaire. Donc je crois que c'est ça le plus gros chantier qui attend les partenaires tchadiens dans les prochains mois, à savoir jusqu'à quel degré ils vont réformer l'État, ils vont réformer l'armée, et créer la condition pour un état de droit véritablement démocratique.
C'était Dani Aïda du National Democratic Institute, NDI, joint dans la capitale tchadienne.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En RDC, le calme est revenu dans plusieurs entités du Maïndombe et du Kwilu, autrefois théâtre des violences intercommunautaires, affirmaient les autorités et les élus locaux. Mais malgré ce calme, la situation humanitaire restait catastrophique dans la région. Des villages restent vidés de leur population et les déplacés vivent dans des conditions très difficiles. Les explications d'Alex Kati Katai, notre correspondant à Kinshasa.
Les différents foyers de tension ont été maîtrisés grâce à l'intervention de l'armée. Le territoire de Kwamout, épicentre du conflit, est calme depuis plus de 2 semaines maintenant. Le même calme règne aussi dans le territoire de Bagata, au Kwilu voisin. Mais c'est la situation humanitaire qui reste désastreuse. Des milliers de déplacés manquent de tout. Sylvain Delmambo, député élu de Bagata, peint un tableau sombre des conditions de vie des déplacés.
La plupart aujourd'hui se trouvent regroupés à Fatundu, le chef-lieu du secteur Wamba dans le territoire de Bagata, dans le Kwilu. Alors là, ils vivent des situations intenables, il y a la faim, ils dorment même le sol, et puis même les populations locales sont totalement dépassées. Un petit marché, aujourd'hui avec un supplément de plus de 3 500 personnes, ils ne savent pas se nourrir convenablement, et les enfants, que ce soit les enfants de déplacés comme des familles d'accueil, sont sans école. Ceci, c'est la même chose comme avant. Nous, la situation est toujours préoccupante. Hein.
À propos du retour des déplacés dans leurs villages respectifs, les gouverneurs du Maïndombe, du Kwilu et du Kwango ont sollicité une intervention du gouvernement central. Willy Ichundala, gouverneur du Kwilu, explique leur démarche auprès du président Tshisekedi.
Plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandunduville, et à Fatundu, à Kengi, à 316, voire même vers Bolobo. Pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent.
Des réflexions sur l'organisation d'une table ronde pour la réconciliation entre les Bateke et les Bayaka sont en cours à Kinshasa. Elles réunissent les gouverneurs des trois provinces touchées par ces conflits ainsi que les experts du ministère de l'Intérieur. Jean-Marie Petit-Petit, gouverneur du Kwango, espère que cette table ronde favorisera la cohabitation pacifique entre les deux peuples.
Bon, le colloque, c'est ça que nous avons souhaité, afin qu'on les écoute, afin qu'on négocie si le possible, que les chefs coutumiers reviennent sur le bon sentiment, afin de ne pas augmenter à l'improviste comme ça la redevance. Et de l'autre côté, les gens qui doivent accepter aussi, évidemment, la situation et qui doivent respecter les principes coutumiers. Nous allons dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse le plus, pour les trois gouverneurs, c'est trouver une solution, la paix. Donc, c'est pourquoi on a évoqué cette question qu'on a là.
Une bonne réconciliation passe par une bonne justice, estime un élu Teke. Willy Bolio suggère que les différents suspects arrêtés soient jugés à Kwamout, épicentre du conflit, afin que les victimes puissent témoigner et être soulagées.
Qu'il y ait un procès organisé sur place à Kwamout, avec tous les inculpés qu'on avait arrêtés, que le procès se fasse à Kwamout pour permettre à ce que les témoins et les victimes soient en mesure d'apporter la lumière. Si on le fait à Kinshasa, ce serait une distraction parce qu'il n'y aura ni témoins et on ne saura pas établir les faits correctement.
Selon un élu du Kwilu, le cardinal Ambongo va se rendre dans la zone en conflit ce mardi pour réconforter les fidèles catholiques. De son côté, le gouvernement compte y acheminer une nouvelle aide humanitaire dans les tout prochains jours. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
La Guinée exploite depuis plusieurs décennies la pisciculture. Face à la surpêche, l'élevage de poissons est une alternative pour renforcer la sécurité alimentaire. Mais l'exploitation piscicole en Guinée a besoin de moyens pour répondre à une forte demande de consommation des produits halieutiques. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Avec 300 km de littoral sur l'Atlantique, la Guinée est un pays où se pratiquent différents types de pêche. En plus de la pêche industrielle et artisanale, les Guinéens consomment aussi les poissons des étangs ou des bassins. Que pensent les Guinéens de la pisciculture? Alpha Oumar et Ibrahim Asila, deux jeunes rencontrés dans la banlieue de Conakry.
C'est une culture qui est beaucoup développée dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. On appelle souvent la pisciculture paysanne, parce que les paysans souvent font cette culture-là, élèvent donc des poissons dans l'objectif peut-être de s'autosuffire en alimentation ou de vendre ces poissons sur le marché. Mais il y a aussi la pisciculture urbaine qui se pratique à Conakry.
Parmi les rares pisciculteurs de la capitale, Youssouf pratique la pisciculture hors sol.
J'ai une petite exploitation que j'ai mis chez moi. J'ai un bassin de 3 mètres cubes, un autre de 5 mètres cubes, un autre de 7 mètres cubes et celui-là il est de 15 mètres cubes. J'ai les poissons, les tilapia, les gris et les rouges. Et en plus, j'ai les silures qu'on appelle communément les poissons-chats. La pisciculture hors sol, vous pouvez le faire partout où vous voulez. Vous avez un bac hors sol en plastique, vous pouvez le faire même dans votre salon.
Il a commencé l'exploitation il y a un an. Et même si ces poissons sont vendus dans la capitale, son activité n'est pas sans difficulté.
Bon, je suis confronté à beaucoup de difficultés déjà par rapport à l'eau. Je devais avoir de l'eau en abondance. Et par rapport à ça aussi, l'eau de robinet n'est pas conseillée pour la pisciculture au sol. De deux, quand vous mettez l'eau de robinet, je me retrouve avec une facture de plus de 800 000, 900 000 par facture. L'aliment, au début, je l'achetais jusqu'au Mali. Mais heureusement, il y a un monsieur qui a commencé à importer l'aliment flottant en Guinée. Mais c'est encore cher parce qu'on se retrouve avec un sac de 15 kilos à 350 000.
La Guinée dispose d'expérience dans la pisciculture des tangues grâce à des innovations dans les aménagements de bas-fonds et un accompagnement technique attractif. Même si la plupart de ces exploitations sont familiales, leur impact sur la consommation n'est pas à négliger face à la surpêche. La diminution des produits halieutiques est par ailleurs l'une des préoccupations de la Guinée. En 2021, le gouvernement avait interdit la pêche industrielle pour 2 mois de repos biologique. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière une grâce pour des milliers d'Américains reconnus coupables de simple possession de marijuana. La Maison-Blanche a affirmé que le plan de Biden s'attaque aux pratiques d'inculpation qui, depuis des années, ciblent injustement les minorités. Certains républicains ont déjà commencé à critiquer cette décision avant les élections de mi-mandat du 8 novembre. Le reportage d'Arash Arabasadi et récit signé Yacouba Ouedraogo.
Le président Joe Biden a annoncé la grâce pour des milliers d'Américains coupables de simple possession de marijuana en vertu de la loi fédérale. Sa décision était prête à l'emploi pour les réseaux sociaux. Le président Joe Biden s'exprimant sur Instagram à partir de la Maison Blanche.
Comme je l'ai dit lorsque j'étais candidat à la présidence, personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé ou possédé de la marijuana. C'est déjà légal dans de nombreux États. Les casiers judiciaires pour possession de marijuana ont causé des obstacles inutiles à l'emploi, au logement et aux possibilités d'éducation. Et ce, avant que vous vous attaquiez aux disparités raciales quant à ceux qui en subissent les conséquences.
Des dizaines d'États, plusieurs territoires américains et Washington D.C. ont déjà une certaine forme de légalisation de la marijuana. Le plan de Biden ne concerne que les personnes qui possédaient de petites quantités, pas celles qui fabriquaient ou distribuaient, et leur arrestation ne doit pas avoir impliqué un autre crime, comme un vol ou une agression. Mais certains des critiques habituelles du président, comme le sénateur républicain de l'Arkansas, Tom Cotton, ont réagi sur Twitter, qualifiant cela de tentative désespérée de détourner l'attention d'un leadership défaillant. La Maison-Blanche affirme que cette grâce donne une seconde chance aux personnes ayant un casier judiciaire pour possession de marijuana qui nuit à leur chance d'emploi ou de logement. Cela fait partie d'un effort plus large de Biden pour changer la façon dont la marijuana est classée aux États-Unis. L'attaché de presse adjoint de la Maison-Blanche, Kevin Munoz, s'est récemment entretenu avec la VOA.
Pour le moment, la marijuana est classée au même niveau que des drogues comme l'héroïne. Cela n'a pas de sens, comme l'a dit le président. Il travaille donc à reclasser la marijuana. Il sait aussi que trop de gens, en particulier dans la communauté hispanique et noire, ont été touchés par les lois fédérales sur la marijuana à cause de sa simple possession.
Il n'y a actuellement aucun prisonnier fédéral détenu pour simple possession de marijuana. Mais comme la plupart des condamnations liées à la marijuana se produisent au niveau des États, Biden a commencé à exhorter à nouveau les gouverneurs démocrates et républicains à accorder des grâces dans leurs États. Et bien qu'un pardon n'effacerait pas le casier judiciaire d'une personne, il supprimerait des obstacles comme ceux liés au droit de voter ou de siéger dans un jury. Biden a aussi demandé aux agences fédérales de revoir la classification de la marijuana qui est actuellement considérée comme plus dangereuse que le fentanyl. Jusqu'à présent, le président s'est abstenu d'appeler à la dépénalisation nationale du cannabis.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Bureau Afrique. Un grand merci à Joselle Morissin
Georges Léonard Sagnot et Michel Claire-Joseph pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manirakiza, Festival au Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.